Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est aujourd'hui Cécile qui nous accueille à la ferme collective du Roube, sur les hauteurs de la commune de Brousse-le-Château, où elle produit et transforme son lait de chèvre en fromage. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors bonjour, je m'appelle Cécile Magnac, je suis sur la ferme du Rouve, ou Roube, on peut dire les deux, sur la commune de Brousse-le-Château.
Quelle est ton activité sur la ferme ?
Alors ici, on est une ferme où il y a des chèvres, on a une trentaine de chèvres laitières et on fait du fromage. C'est l'activité principale et après il y a des activités annexes.
C'est une ferme collective, non? Je crois que tu m'as dit.
Voilà, c'est ça, c'est une ferme collective. Donc on a d'autres petites activités à côté, comme le pain qu'on vend aussi. Et après des activités pour faire vivre le lieu, comme le potager, après retaper le lieu, parce qu'il y a une rue de ruines par exemple. Donc voilà, entretenir l'endroit, organiser des événements aussi.
Et ici, on est sur le contrefort du Ségala, du Lévezou.
Non,
même pas.
Je crois qu'on est juste en dessous du Lévezou, mais on ne fait pas partie du Lévezou.
Donc, depuis combien de temps, toi, tu es fermière, paysanne, agricultrice ?
Moi, je suis installée ici, sur cette ferme, depuis mai 2016.
Mai 2016.
On a acheté ce lieu en mai 2016, à plusieurs. Et moi, je me suis installée officiellement en même temps.
Et avant de venir ici, tu étais déjà agricultrice ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non.
Tu étais dans quoi ?
J'ai fait des études de chimie de l'environnement.
Ma chère.
Ouais.
Ouais.
Ça dit pas grand-chose quand même.
Ouais, je vois pas. En quoi ça consiste, ouais.
Bah, en gros, c'est... tu peux faire de la recherche pour essayer de diminuer les déchets, par exemple, qu'on produit. Ou moi, j'ai bossé, par exemple, dans une petite PME qui... traiter les déchets pour faire de l'électricité et de la chaleur.
La biomasse ?
Bah, ça ne s'appelle pas la biomasse. Nous, c'était la gazéification. Un autre procédé encore.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agricultrice, alors ?
Bah, j'ai eu envie de revenir à la terre, de faire des choses par moi-même. Parce que je me suis rendu compte que... Enfin, tout ce qui est autour de l'environnement, ça me parlait. Et le métier que j'exerçais... je sentais que je devais me battre pour mes idées et que ça allait pas. Donc j'ai eu envie d'essayer de me réapproprier les savoir-faire ancestraux, de faire les choses par moi-même. Donc j'ai commencé par faire du woofing pour voir si ça me plaisait. Avec des copains, on s'est motivé à plusieurs sur la route. Et ça m'a plu et du coup j'ai fait un BPREA, Centrafrique. Donc pendant un an et après on s'est installé sur un collectif en attendant de trouver cet endroit ici et de s'installer ici.
Et donc au jour d'aujourd'hui tu fais du fromage de chèvre, c'est ça que tu m'as
c'est
dit?
C'est ça.
C'est vous-même qui le transformez?
Oui, on a un atelier. Quand on est arrivé ici sur la ferme il n'y avait rien parce que c'était une personne âgée qui vivait toute seule, qui n'avait plus du tout d'animaux, qui ne faisait plus rien sur le lieu. Du coup, on a acheté les chèvres un an après, le temps de préparer l'endroit pour qu'elles soient bien accueillies, les bâtiments, faire des clôtures aussi, parce qu'on connaissait les chèvres et on sait que ça saute partout, donc il fallait un minimum les préparer. Et après, ça a mis deux ans de plus, le temps qu'elles grandissent, et ça nous a laissé le temps de construire la fromagerie nous-mêmes. On s'est fait aider par des artisans. Comme ça, pour la première lactation, tout était prêt et il n'y avait plus qu'à s'y mettre.
Et donc, vous maîtrisez toute la chaîne entre le traire les chèvres, transformer le lait en fromage, l'affiner et le vendre.
C'est ça.
Vous faites de la vente directe.
Oui.
Et vous vendez comment alors ?
Alors, cette année, on vendait au marché de Sainte-Afrique. C'est la première année qu'on faisait ce marché. Très bien. Pour le moment c'était un bon aperçu. On avait déjà testé le marché de Rodez mais c'était moins concluant. Après on fournit quelques boutiques du coin, quelques épiceries des villages à côté, Requista, Broquies. On vend aussi au restaurant de Brousse-le-Château qui nous en prend pas mal. Puis après à Sainte-Afrique, El País, Biocop.
Oui.
Et on fait le marché aussi de Brousse l'été.
Et combien de chèvres vous avez maintenant ?
On a à peu près 30 chèvres adultes. Ouais.
Ça représente quelle quantité de lait sur une année ou quelle quantité de fromage ?
Sur une année, je ne saurais pas dire. Nous, on fait à peu près 6-7 mois de lactation. Et du coup, elles produisent, on va dire, 2 litres maximum par chèvre. Et sachant qu'avec un litre, on fait 2 à 3 fromages, des petits cabécous.
Et 2 litres par semaine, par jour par...
Et du coup, on fait une traite par jour. On est en monotraite. Et là, en ce moment, par exemple, on est en fin de lactation. Donc, on va arrêter là, d'ici la fin de la semaine. Là, en ce moment, on a... combien on a de litres ? On a à peu près 20 litres pour 30 chèvres. Donc, elles font pas beaucoup, là. Mais on a quand même suffisamment de fromage pour...
Et vous avez un bouc ?
Ouais, on en avait 2, même.
2 ? Oui, il faut les renouveler de temps en temps, non, les boucs ?
Ouais, on les renouvelle de temps en temps. Et quand ils sont trop méchants...
on les garde pas.
Ouais, on les garde pas, c'est ça.
Et les chevrons mâles, alors ? Ils deviennent quoi ?
Ils partent en viande ? Même les femelles, hein. On garde pas beaucoup de petits. Les chèvres, elles font... quasiment toutes, elles font 2 chevrons, chacune. Donc 60, admettons, on a 50 chevreaux chaque année, ça fait beaucoup. On a à peu près moitié mâle, moitié femelle. Du coup, là, cette année, on en a gardé 6 femelles pour le renouvellement. Mais c'est la première année depuis qu'on les a qu'on fait le renouvellement. On ne le fait pas chaque année.
Ça donne du lait pendant combien de temps, une chèvre ?
Je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore le recul nécessaire. On verra. Peut-être une dizaine d'années ou... Ouais, je dirais 10 ans. Parce que normalement, ce qu'on avait appris en formation, c'est un tiers de renouvellement par an. Donc si tous les ans, on devait se séparer de 10 chefs, je trouve que ça fait beaucoup, moi.
Ah, tu t'y attaches à tes bestiaux ?
Bah oui, quand même. Bah oui. Elles ont toutes un petit prénom.
Ah, bien.
Bah, j'arrive pas à toutes les reconnaître, mais celles qui ont du caractère ou qui ont une morphologie ou une couleur particulière, on les reconnaît facilement, ouais.
Pourquoi est-ce que tu as choisi ce type d'exploitation-là ? Pourquoi les chèvres ?
Pourquoi les chèvres ? Ça, c'est une affinité avec les animaux. Quand j'ai fait du woofing, je me suis occupée aussi de vaches et de brebis et de chèvres. Et je trouve que le contact avec les chèvres est sympa.
Et pour toi, faire de l'agriculture, c'est forcément de l'élevage ?
Bah,
tu ne voyais pas faire du maraîchage, par exemple, ou du maïs semence ?
Non. Maraîchage, non, parce que pour moi, c'est beaucoup de travail. J'ai l'impression que c'est trop de travail, de mon point de vue. Et à valoriser, c'est peut-être moins facile, je sais pas. C'est peut-être une idée que je m'en fais. Et maïs semence, non, c'est pas trop mon état d'esprit.
Ouais. Vous êtes en bio ici, enfin, vous êtes déclaré bio ?
Ouais, au début, on voulait pas forcément. Et en fait, quand on arrivait, la ferme était. Les terres étaient déjà certifiées bio. Donc, on ne s'est pas trop posé la question, on a laissé en bio.
Puis pour vendre en boutique comme à la Biocoop ou d'El País, il faut avoir le label, il me semble.
Pour El País, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Mmh. Pour Biocoop, oui, sûr.
Est-ce que vous en vivez bien de votre travail ? Est-ce que vous avez recours au RSA pour vous en sortir ou pas ?
Pour le moment, on a encore le RSA, oui. Après, l'idée, c'est de petit à petit s'en séparer. On va dire qu'on est à peu près en année croisière cette année, mais ça met du temps, quoi. Ça fait 3 ans qu'on fait du fromage, donc c'est encore assez récent. Et puis, comme on est plusieurs sur la ferme, qu'on fait plusieurs choses, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre ce qu'on fait ici, ce qu'on vend, comment on s'y retrouve financièrement. Mais l'avantage, en tout cas, de ce mode de vie, c'est qu'on a... On ne dépense pas grand-chose. Comme on produit beaucoup de nourriture pour nous...
Vous n'avez peut-être pas des gros besoins aussi ?
Non, on n'a pas de gros besoins. Ouais. Puis nous, on est très économes aussi. pas dépensiers. Donc, ouais, on...
Mais vous avez de quoi investir quand il arrive, je sais pas, une panne,
un pépin.
Des travaux, une maladie ?
Pour le moment, on n'a pas eu de gros pépins comme ça. Donc, on n'en a pas eu besoin. Après, on a la PAC aussi. Avec la PAC aux hectares, ouais, voilà, c'est ça. Bah là, du coup, c'est que sur les prairies, donc c'est sur 15 hectares, mais ça représente largement...
La PAC ne couvre pas les forêts ?
Non, l'aide à l'hectare, c'est surtout pour les prairies. Mm-hmm. Ouais.
On va passer aux questions philosophiques, si tu le veux bien. Enfin, ouais, je les appelle si philosophiques, mais elles n'ont pas grand-chose de philosophique.
Je t'ai pas parlé des chevreaux quand même. Je t'ai pas répondu tout à l'heure par rapport aux chevreaux. Parce que c'est quand même important. Je trouve qu'on le met souvent de côté, ce côté-là. Enfin,
le fait de devoir se séparer des chevreaux.
Bah souvent, on pense au fromage. Il y a aussi le côté les gens qui mangent pas de viande, mais qui mangent du fromage. Bon, en fait, il y a quand même le côté quand on a un élevage et qu'on fait prendre les chèvres pour qu'elles fassent du lait, il y a aussi des petits, et il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Et donc la plupart des gens, ils se séparent des petits pour les mettre en centre d'engraissement. Donc, nous, les chevreaux, souvent, ça part en Portugal ou en Espagne, dans des conditions pas très, très cool. Cette année, on a voulu essayer de faire tout en vente directe, donc de ne plus passer par eux, parce que eux, en plus, non seulement les conditions sont... de détention des animaux sont très limites, mais en plus ils baissent le prix. Enfin, ils ont aucun respect pour les. Moi, je me suis embrouillée avec eux. Ils ont pas de respect pour ce qu'on fait. Bref. Donc cette année, je me suis dit, je vais essayer de tout valoriser en direct. Sauf que j'ai trouvé un abattoir qui me prenait les chevreaux petits, histoire de pouvoir étaler la vente des chevreaux et de pas tout vendre d'un coup, parce que c'est pas évident. 50 chevreaux, ça fait beaucoup quand même. Il faut trouver un débouché. Donc, il y a Carmo qui me prenait des petits. Sauf que depuis cet été, ils ont arrêté de prendre les chevreaux et les chèvres. Donc maintenant, j'ai que la possibilité de les amener à Saint-Afrique à 15 kilos. Ouais. C'est-à-dire après 4-5 mois. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, ça va être un peu plus compliqué pour réussir à vendre la viande de chevreaux, quoi, pour étaler dans l'année. Ouais. Donc, c'est une vraie problématique et qui n'est pas très abordée et très réfléchie. Alors que c'est quand même la plupart des éleveurs ont cette problématique, ils ne savent pas quoi faire de leurs petits. Et surtout les chèvres. Les agneaux sont plus valorisés quand même, c'est plus connu. Ouais. Mais au niveau des chevriers, c'est quand même une vraie problématique. Quoi.
Oui, il n'y a pas tellement de débouchés en France.
Non, il n'y a pas de débouchés, c'est pas connu, les abattoirs ne sont pas équipés, les services publics ne nous aident pas pour valoriser ça.
Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais ? Est-ce que tu as eu parce que toi tu l'as connu en faisant du woofing, peut-être as-tu reçu déjà des woofers ?
Oui, j'ai reçu des woofers.
Et alors, quand ils te montrent quelconque intérêt, tu les incites à continuer et tu les mets en garde sur quoi ?
Je sais pas si j'ai été confrontée à des woofers qui voulaient faire ça, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est c'est un métier que j'ai aimé au départ et que j'aime toujours. Après, il y a des difficultés. Mais pour moi, clairement, si on veut avoir un élevage, il faut être à plusieurs. Pouvoir bouger si on a envie, que ça soit plus souple. C'est quand même une entreprise. Donc, c'est pas que s'occuper des animaux. Il y a plein de choses à gérer à côté, que ça soit les cultures, le soin, les papiers, enfin, il y a vraiment, c'est très complet et donc je pense que c'est bien d'être à plusieurs. Après, moi j'aime beaucoup parce que c'est le contact avec les animaux, la nature, se réapproprier à faire les choses. Je trouve ça a du sens, moi.
Est-ce que tu as une idée de ce que l'agriculture pourrait devenir dans les années à venir ? La tienne ou l'agriculture en général ? Ou est-ce qu'elle qu'elle devrait devenir ? Après le projet de Macron.
Oui, voilà, c'est ça. Après la déclaration de Macron, c'est mal parti pour que ça soit au profit des petits éleveurs du local. J'ai peur que ça aille dans le sens de grosses entreprises, un peu déconnectées de la nature et des animaux. Et donc moi, ça me fait un peu peur, cette dérive-là. Ouais, je suis pas très confiante en cet avenir, Pour moi, c'est pas de l'agriculture, en tout cas.
Pour toi, on va de plus en plus vers du hors-sol.
Oui, voilà, c'est
ça. Élevage, et même des pieds de tomates qui poussent dans de la mousse arrosée par-dessus.
Oui, où on est complètement déconnecté de la nature et de notre environnement. Alors qu'à la base, quand même, c'est la base, quoi.
Mais il y a quand même un mouvement qui se crée en France. Des néo-ruraux qui veulent faire... de l'agriculture un peu à l'ancienne, tout en emportant de nouvelles méthodes pour essayer d'améliorer le truc, les engrais verts, etc. Il y a un mouvement, il y a une réflexion là-dessus.
Oui, il y en a. En Aveyron, il y en a quelques-uns quand même.
Oui.
Ça bouge un petit peu, mais...
Mais c'est pas en Aveyron qu'on prend les décisions.
Ben voilà, le truc, c'est qu'il faut que ça suive aussi derrière, que ça soit les consommateurs, que ça soit les instances publiques. Peut-être qu'avec ces histoires de confinement, les gens, ils se rendent plus compte de... Enfin, il y a eu un mouvement à un moment donné où les gens se sont rendus compte que peut-être qu'il fallait qu'ils mangent mieux.
Plus local.
Plus local. Donc, je sais pas, c'est aussi beaucoup dans l'esprit des gens de comment ils considèrent l'alimentation, comment ils considèrent l'environnement, la nature. Et qu'est-ce que ça importe pour eux, l'agriculture ? Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est un peu la base quand même de notre siècle, parce que c'est notre nourriture, quoi. Donc, faut se l'approprier.
Quelque part, est-ce que c'est pas le consommateur qui a la clé, en fait ? En préférant tel produit plutôt que tel autre ?
Oui, ça en fait partie. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a nous aussi, en tant qu'agriculteurs, de montrer que c'est possible de faire d'une certaine façon, de produire localement, de proposer localement, de qualité, accessible à tous aussi. Il y a une histoire de prix, mais qu'on puisse s'y retrouver nous aussi. Après, il y a le consommateur dans ses choix de consommation. Et puis après, au-dessus, quoi. Les choix qu'ils prennent... Ouais, l'informatique pour l'agriculture, bon, est-ce que c'est...
Il y en a déjà.
Oui, avec les puces électroniques, voilà. Avec les robots traites, voilà. Tout ça, oui, ça existe déjà.
On va raconter les tracteurs qui marchent tout seuls, par exemple.
Ah oui. Ça, mais il y a des agriculteurs qui sont très contents de ça. Mais bon.
Mais oui.
Disons que c'est dans une démarche où ça va dans un sens où les gens, ils investissent beaucoup d'argent pour du matériel très sophistiqué, pour avoir de l'argent, pour réinvestir derrière. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de cercle vicieux, moi, je trouve. Alors qu'avec peu de choses... nous, ici, on n'a pas dépensé grand-chose. Et puis, on n'a pas de dettes, on s'en sort très bien, on n'a pas de pression financière. Et en fait, je pense que c'est possible d'y aller doucement, sûrement, tranquillement.
Thank you.
Donc là, on arrive sur votre potager collectif.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui a bien marché cette année ?
Les courgettes. Les courges, les haricots verts. Surtout ça. Après, on a eu du maïs aussi, un petit peu.
Ah oui, du maïs, vous faites. Ça demande beaucoup d'eau, non, le maïs ?
Ben non, non, non.
Ah bon ?
Non, non, franchement, ça va. Hein. Ah. Il faut utiliser des variétés un peu anciennes. Et nous, on fait du maïs un peu pour nous, mais sinon aussi, le reste, là, il en reste un peu qui sont secs, ça sera pour les poules.
Oui, j'ai vu, voilà. Vous avez des poules, des canards.
Ouais, on a des poules, des canards, on a des cochons aussi, là-bas.
Ah ouais ?
Ouais, on peut aller les voir.
D'accord, oui, je veux bien.
Allez.
Ça fait des sons sympas, les cochons.
Et là, on a une petite serre pour faire nos semis.
Vous faites vous-même vos semis ?
Ouais.
C'est délicat, ça, non, à faire ?
Ça dépend, quoi. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Après, moi, je suis pas souvent au jardin.
Ah, c'est pas ta partie.
Un petit peu, ça, j'aime bien, ça me change de travailler la terre.
En tous les cas, un truc qui marche bien chez vous, c'est les orties. Il y en a partout.
Ouais.
Faire du bon purée. Ah oui, les maïs. Oh là là, il est grand celui-là. Il fait 3 mètres.
Ouais. Il y avait des tournesols avec qui étaient aussi grands. Mais là, c'est mignon, il y a les petits oiseaux qui viennent picorer les graines de tournesol, qui viennent directement se servir sur les fleurs.
Ils se font pas caguer. Ça vous embête pas ?
De quoi ?
Qu'ils viennent prendre des tournesols ?
Bon, non, non.
Vous en faites rien ? Ah bon ?
Bon, là, ils sont là. C'est bien, ça tient les oiseaux, c'est cool. Alors, là, on va voir les cochons.
Les cochons.
Où est-ce qu'ils sont ?
Ils sont là. Eh bien, oulala ! Ils arrivent en courant.
Ouais.
Bonjour, un petit mot pour Radio Saint-Afrique. Oui. D'accord, merci.
Du
vous en avez deux.
Ouais, eux ils mangent le petit lait, ce qui sort de la fromagerie. Et avec un copain paysan boulanger, il nous donne le son de sa farine. Comme ça on mélange les deux et c'est la base de leur alimentation.
Très bien.
Et après en hiver, ils passent à la casserole et avec le copain on partage et on fait les conserves, le pâté, les saucisses, tout ça, tout ça.
Ouais, comme c'est bon.
Donc voilà.
Et c'est quoi comme race ces cochons, tu le sais ?
Non, je ne sais pas. Et en plus, cette année, on a changé. Pas les mêmes que d'habitude. L'année dernière, on avait des tout noirs.
Oui, des... attends.
Des
Bayeux, non ?
Non, des Gascons, je crois.
Des Gascons.
Ouais. Donc voilà. Donc ceux-là, je ne sais pas ce que c'est.
Des cochons roses. Ouais. Avec des taches grisées.
Tu veux qu'on aille voir les chèvres là-haut, du coup ?
Allez, allons-y.
Mais j'ai entendu les cloches pas très loin, donc elles doivent pas trop loin, les autres. Tu veux aller voir ou pas ?
Et si elles te voient, elles vont venir vers toi ?
Bah, peut-être.
Oui, bah, je te suis.
Ouais. Allez.
Si ça t'embête
Faut
pas.
Faut pas qu'elles sortent du parc, mais... Je sais pas où elles sont. On va voir. On a beau avoir fait des clôtures avec du fil électrique, bon, elles font un peu ce qu'elles veulent, quand même. Elles veulent sauter...
C'est les chèvres rebelles.
Mais elles sont marrantes parce que des fois elles sautent, mais des fois elles sont derrière, on les appelle et elles veulent pas y aller.
Ah, ça serait pas un peu têtu la chèvre par hasard ?
Ouais, un petit peu, ouais.
Et alors, c'est quoi comme race de chèvre ?
Alors, il y a des mélanges. On a acheté chèvres, des races laitières, donc les Saananes et les Alpines, mélangées avec des Pyrénéennes. Mmh. Et les Pyrénéennes, c'est plutôt une race rustique. Comme ça, on essaye de développer le... De mélanger le côté production laitière et abaisse.
Ah, elles sont juste là.
Et rusticité pour qu'elles s'adaptent au climat.
Ouais. Tout ça. Les alpines, c'est celles qui ressemblent à des chamois, c'est ça ?
Les alpines, c'est les noirs, les marrons avec le trait noir sur le dos.
Ouais.
Les saanennes, c'est les toutes blanches.
Mmh.
Et pyrénéennes, elles ont plein de couleurs différentes. Elles ont les poils longs. Il y en a qui ont des poils un peu plus longs sur le dos. Et là, on a le bouc, le blanc, là, celui qui a les longues cornes. C'est notre bouc.
Je le vois pas. Ah oui, ça y est, il est là. Bonjour, il a une belle barbiche, lui.
Ouais, mais lui, il est cool.
Ah ouais ?
Il est tranquille, il est pépère. Bon, il faut pas les...
Elles sont toutes là ?
Ouais. Bah, sauf les deux qui se sont fait mal, là-haut, mais sinon, elles sont toutes là, ouais.
Et je vois là-bas, par là-bas, là, c'est les petits, non ? Les derniers ?
Il y a deux années différentes, donc il y en a qui ont un an de plus que les autres. Et il y en a qu'on a fait prendre alors qu'elles n'avaient que un an. En fait, elles naissent au printemps et la reproduction se fait à l'automne. donc octobre, septembre. Mmh. Et il y en a qu'on a fait prendre donc leur première année et ça, elles ont cessé de grandir. Donc elles sont un peu plus petites que les autres.
Ah, parce que elles n'avaient pas fini de grandir au moment où elles ont fait leur premier petit.
Ouais, on s'est rendu compte de ça.
Les deux, attends, ça va les passer par-dessus.
Bah, elles vont toutes suivre là.
Allez.
Allez, c'est parti, tu vois. Là. Elles font ce qu'elles veulent.
Et ça mange tout là vraiment ou non, ça mange pas l'herbe, si.
Si, si, ça mange l'herbe aussi. Si, si.
Et ouais, les petits ganglions là qui sous le cou là.
Les pampilles.
Les pampilles. Ouais. Bon. J'ai pas réussi à savoir à quoi ça servait.
Je sais pas, moi non plus.
Toi non plus. Je sais qu'il va falloir que j'aille au CNRS ou un truc comme ça pour avoir la réponse.
Et puis elles les ont pas toutes. Suivant les races, il y a des races qui en ont pas.
Ah oui.
Bah là, celles que tu vois, elles en ont, mais.
Mmh. Ah oui, celle-là, la grise. Ah si, elle aussi.
Non, mais il me semble qu'il y en a qui en ont pas. Bah là, je vois pas lesquelles.
Elle est vachement grosse celle-là là.
Celle qui. La première
ouais,
là, la
celle qui fait pipi là.
Ouais. Et c'est une des très bonnes laitières, elle.
Ah ouais.
Et ouais.
Elle s'appelle comment celle-là?
Miss Pelle.
Miss Pelle. J'ai voulu te tendre un piège.
D'accord. Ah, bah elle, je la connais du coup, elle est caractéristique quand même. Ouais. Elle a pas la robe pareille. C'est plutôt les marrons où j'ai un peu de mal parce qu'il y en a plusieurs des marrons qui se ressemblent. Mais dans les marrons, il y a des fortes têtes que je reconnais.
Voilà. Ah, c'est les glands, putain.
Donc du coup là c'est une partie des prairies qu'on a que celle-là on fait pas de foin là-dessus parce que c'est trop inaccessible. Oui. Donc, c'est juste pour la pâture. Ouais. Et après vers là-bas il y a une autre aussi parcelle. Mmh. Et sinon un peu plus bas il y a la forêt.
Ça c'est cool quand même d'avoir tout attenant.
Ouais, c'est pratique.
C'est pas tout le monde ça.
Non.
Et tout est à vous, il n'y a pas de fermage.
Non, on a tout acheté, ouais.
Ah ouais.
Ça, voilà. C'est notre tracteur.
Ah, il est beau le tracteur. Alors là, celui-là.
celui-là, genre, on l'utilise pour faire le bois, pour le chauffage.
Il doit dater d'avant la Seconde Guerre mondiale, non? C'est pas possible.
je sais pas,
c'est un vieux machin. On voit même plus la marque. Tu sais pas ce que c'est comme marque?
Non, je sais pas. J'y connais rien du tout. Ici, il y a le four à pain.
Ah.
Quand on est arrivé, il était en état. Du coup, c'est une. Hop.
Ouais.
C'est un four avec en pierre.
il est toujours en bon état.
Ouais, c'est celui-là qu'on utilise pour faire notre pain.
Très bien. Donc et ce pain, vous le vendez ou vous le gardez pour vous?
On fait une fournée par semaine, on fait 30 kilos à peu près.
Boulu.
Et on en vend un petit peu aux voisins, un petit peu sur le marché de Sainte-Afrique, et le reste, c'est pour nous.
Très bien. Et c'est du pain à base de quelle farine?
C'est au levain, avec des farines de blé ancien d'un paysan boulanger qui est dans le coin. C'est rustique.
Ah oui. Ah écoute, il n'y a pas besoin de plus.
Non, c'est le minimum.
Voilà, donc les tables
avec le pétrin ici.
Sont recouvertes de farine. Ah oui. Donc une boîte.
Ouais,
la table qui s'ouvre.
Voilà,
on appelle pas ça une mets aussi?
Ah, je sais pas.
Peut-être
je connais
la
que sous le nom de pétrin.
Et là-bas, les sacs de farine qui attendent sagement. Il fait frais ici.
Ouais. Hein? Il fait toujours tempéré.
Même en été.
Ouais.
Ah, qu'est-ce que c'est ça? Une peau? J'ai cru un chat au début, j'ai eu un chat noyé. Non, c'est une peau de chèvre
qu'on essaye de tanner.
Il faut enlever les poils et tout. Ou vous les gardez?
Non, les poils, on les garde.
Uh-huh.
Tu gardes la peau avec les poils, mais c'est galère à bien nettoyer.
Oui, j'imagine.
Mais bon, on va faire un tapis ou quelque chose. Ça, c'est la chèvrerie, mais c'est là où les chèvres sont.
Mmh. Attention, chèvre espiègle. Ne les laissez pas s'échapper.
C'est ça. Ouais, voilà.
Donc là, vous avez une espèce de grande cour.
Ouais. Avec ici, on a une forge qui est en état.
Une forge? Ah ouais, ouais. Ah, ouais, oh, tu vas intéresser plein de copains à moi, là.
Ben, il y a des copains qui sont passés nous faire des démonstrations de forge.
Ah ouais.
Donc la cheminée a été un peu retapée parce que c'était pas trop en état. Mmh. Il y a le soufflet, là, le système de soufflet, là, comme ça, là. Hop, avec la petite manivelle ici.
C'est mécanique, ouais, d'accord.
Comme ça. Ça souffle là par en dessous, et là il faut faire le feu, et voilà.
Voilà. Et alors, et c'est après, rempli de ferraille à tout sens. Bon, ça fait un petit moment que ça n'a pas servi, si?
Bah, si, là, il y a des copains qui ont fait des couteaux, ouais, peut-être il y a un mois, quelque chose comme ça.
Ah, ouais, non, d'accord, c'est récent.
C'est pas tous les jours, mais un petit peu, quoi.
Ah, ouais, chouette. Ça, c'est pas tout le monde qui est équipé d'une forge.
Ouais, ah ouais. Et là, c'est notre espace où on fait des soirées.
Voilà.
Avec le petit bar.
L'espace brainstorming. Ah ouais, carrément. Tu, vous êtes organisé. Il manque que les frigos pour poser les bières.
Bah, il y a un frigo, là.
Hein?
Il y a un frigo et puis on a la tireuse, regarde.
Ah, l'organisation. Ah ouais, la tireuse. Ah ouais. Il y a même le petit cubi du rouge qui attend gentiment.
Fromagerie ou pas forcément?
Bah, je sais pas, pour les histoires sanitaires, je sais pas si c'est recommandé.
Normalement, il faut changer de chaussures. Moi.
Ouais, voilà. Bon, enfin bref, elle est là.
Sinon, t'as une porte là.
Voilà. Il y a une vitre.
Ça, c'est la salle de fabrication avec voilà. La cuve pour faire des tomes si on veut. Là, il y a les lactiques qui sont en train de s'égoutter. Et là-bas, au fond, c'est ceux qui ont été démoulés. Et après, dans la petite armoire blanche, là, ils sont en train de s'affiner.
Ok. Voilà. Donc là, c'est le royaume du carrelage et de l'inox.
Ouais, c'est ça.
Et encore, vous n'avez pas du PVC, trop.
Oh non,
et donc, combien de fromages vous faites en ce moment, par exemple? On est en octobre, là.
En ce moment, bah, du coup, on a 20 litres. Et ce matin, j'ai moulé combien? J'ai moulé 60 fromages ce matin.
60 fromages.
Pour 20 litres. Ouais, ça fait un pour
trois. Tu les gardes combien de temps avant de les écouler?
Là, on va les vendre au marché samedi. Donc,
D'accord.
On a un petit stock.
La production de la semaine, tu vends le samedi?
Ouais, un peu plus. C'est décalé de peut-être 15 jours, on va dire, un truc comme ça.
D'accord. Je te remercie, Cécile, d'avoir accordé du temps.
Merci à toi.
Merci. À bientôt, j'espère.
Ouais, avec plaisir.
Merci à Cécile pour son témoignage et aux Biquettes pour leur bon lait. Toutes les paroles rurales sont en libre accès sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.